Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver! C'est bien contre histoire! Et c'est bien Tati Daniel, faut pas rêver! Et ça va pas être plus rigolo que d'habitude, contre histoire! Quoique, si je vous dis EPR, Flamanville, ça donne bien un petit peu envie de rigoler, non? Jusqu'à un certain point. Eh ben, profitons du temps qui nous reste pour nous moquer de l'EPR et de ses génies créateurs et financiers. Ça fera pas digérer l'inflation, mais ça nous soulagera tout de même un petit peu. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a ouvert du 5 juin au 15 septembre. Au 15 septembre, retenez bien cette date, hein, c'est la semaine prochaine. Une consultation publique sur le dossier de mise en service de l'EPR de Flamanville. Oui, oui, ça existe, une consultation publique sur le dossier de mise en service de l'EPR. On n'y croyait pas? Eh ben voilà. Dossier très complexe, qui comprend près de 12 000 pages. Le gouvernement est tranquille. Les oppositions ne pourront matériellement pas s'exprimer sur ces 12 000 pages, ce qui lui laissera le temps et le champ libre pour continuer sa politique nucléaire. La consultation sur l'EPR de Flamanville est donc une farce. Les autorités consultent le public parce que c'est une obligation légale. Et parce que, comme l'a dit le président de l'ASN, il faut que toutes les personnes qui souhaitent s'exprimer puissent le faire. Et ceci sans même évoquer l'idée de les écouter. Les écouter, pour que faire? Cette soi-disant consultation se fait sans présentation visuelle ni explication, par le biais d'un dossier de plus de 30 documents différents, dont certaines données ont été, par hasard, effacées. Des milliers de pages à étudier en 10 semaines au cours de l'été. On peut avoir des doutes quant à la sincérité du pouvoir de donner vraiment les moyens aux citoyens et citoyennes de se faire une idée de l'EPR, de comprendre sa raison d'être, son fonctionnement, ses systèmes de sécurité, pour se faire sa propre idée et exercer son esprit critique, seul moyen d'adhérer ou non, consciencieusement, au projet. La presse professionnelle et d'investigation a évoqué plus d'une dizaine de malfaçons, rectifications, complications et accidents divers et variés qui ont entraîné les retards et surcoûts astronomiques que l'on sait. En 2007, le chantier annoncé devait durer 5 ans pour un coût de 3,3 milliards d'euros. Il y a de ça plus de 16 ans, et que c'est pas fini, pour une facture désormais estimée à 19,1 milliards. Les associations écologistes refusent de participer à cette consultation mascarade, à cette escroquerie. Pour répondre civiquement à l'appel du gouvernement, il y a d'autres moyens que de faire le voyage en Normandie ou de passer des mois à étudier ces 12 000 pages techniques. On peut par exemple envoyer à Flamanville, avec nos bons voeux de courage et de succès, un bout de scotch, une rustine, un bout de ficelle, un joint de caoutchouc ou de fibre, pas trop usagé quand même. Le nucléaire, c'est l'affaire de tous. Il faut faire des efforts. Ne lésinons pas. Plus sérieusement, il faut pourtant savoir ce qui s'est passé depuis le lancement du chantier de l'EPR. Pourquoi il a pris tant de retard? Pourquoi le budget initial a été multiplié par 5? Pourquoi l'EPR de Flamanville est-il un fiasco monumental? Pas encore fini et déjà dépassé. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, propose à celles et ceux qui le souhaitent de donner leur avis en ligne. Alors notez bien, mais vous le retrouverez un jour sur la page de l'émission. https://www.asn.fr/ Et là, entre tous les mots qui suivent, eh ben, il y a le tiré du 6. Hein. Alors, LASN réglemente / consultation du public / mise à participation du public pour le projet de mise en service du réacteur EPR de Flamanville. Vous manquez peut-être d'inspiration. Alors, le réseau Sortir du nucléaire vous propose plusieurs arguments pour vous opposer à cette mise en service. Attention cependant, plusieurs commentaires identiques ne seront comptabilisés que pour un seul par l'ASN. Alors, n'hésitez pas à modifier ceux qui vous sont proposés. Bon, vous changez la conjugaison, vous mettez des pluriels... Vous êtes bien à Contre-Histoire sur Canal Sud. On continue de s'amuser. Vous voulez parler d'écologie? Alors, un réacteur nucléaire en service de plus, ce sont des rejets chimiques et radioactifs dans l'environnement en plus. Et ça, c'est non. Il faut arrêter tout rejet de substances dans l'air, dans l'eau et dans les sols.
Wir werden aufrecken, sagen die Künstler. Aber nein, sagen die Wurst. On va tous crever, disait l'artiste. Ah, mais non, tire les saucisses.
L'EPR va pomper l'eau de mer. Il massacre la faune et la flore marine qui se fait happer dans les prises d'eau. C'est non, protégeons toute la biodiversité. L'EPR va rejeter de l'eau très chaude dans la mer. C'est non, il faut préserver la ressource en eau et sa biodiversité. L'EPR rejette de la radioactivité en mer qui est absorbée par les êtres vivants et devient une part de leur organisme. C'est une forme de pollution pernicieuse et définitive du vivant. Par exemple, on a vu sur les plantes aquatiques à Golfech l'enrichissement de la Garonne. La Garonne est enrichie en radioéléments rejetés par la centrale atomique. Les deux principaux radioéléments analysés furent le tritium, hydrogène radioactif, et le carbone 14. Ces deux toxiques, comme le note la crirade, dont je vous ai parlé souvent, se retrouveront au bout du bout dans les cellules des organismes vivants, y compris dans l'ADN, créant à la longue une irradiation interne qui augmente les risques de cancer, entre autres. rejeter du tritium et du carbone 14, c'est augmenter les risques pour la faune, la flore et les êtres humains. Les êtres aquatiques, qui sont contaminés par la radioactivité rejetée en mer par l'EPR, peuvent ensuite être consommés par l'homme. Et on ne connaît pas assez les conséquences de cette contamination de la chaîne anthropique. Et puis le réacteur nucléaire n'est pas adapté au changement climatique et il ne pourra jamais l'être. Les études faites pour mesurer les impacts sur l'environnement de ce réacteur sont trop anciennes et complètement obsolètes. Les impacts ont été calculés hors réchauffement climatique et autres joyeusetés de notre vie moderne. Il n'y a pas l'avis de l'autorité environnementale dans le dossier. Or, cet avis est obligatoire. Il y a eu des fuites radioactives sur l'EPR de Taishan en Chine. Fuites qui n'avaient pas été anticipées. Il est donc impossible d'affirmer à 100% qu'il n'y en aura pas sur cette EPR-là. L'EPR, c'est plus de transport de matières dangereuses et de pollution. C'est non.
Je sais plus jouer, disait l'enfant. Tiens, voilà 5 francs, dirent les parents.
Vous voulez parler d'argent? Le réacteur a déjà coûté trop cher. Plus de 19 milliards selon la Cour des comptes. Pour que l'électricité produite puisse être un jour rentable, autant arrêter les frais maintenant, plutôt que de dépenser encore plus sur ce projet fou. Tout ce qui est investi dans ce réacteur ne le sera pas dans les énergies renouvelables. Tout l'argent investi là-dedans aurait été plus utile investi dans l'isolement des logements. Il faut arrêter de dépenser pour cet EPR de cauchemar et mettre les sous ailleurs.
Je veux pas savoir tuer, dit le soldat. T'étonnes pas des tons, dit le général.
L'EPR n'est pas dimensionné pour faire face aux aléas climatiques. Inondations, sécheresses, températures extrêmes, orages, tornades, neige, etc. Et ça coûtera beaucoup trop cher de le modifier, rapidement, pour une efficacité durable. Le chantier a tellement de retard que plusieurs pièces et composants ont déjà vieilli avant même d'avoir servi. Va falloir les remplacer. Ce qui va rallonger encore la facture déjà monstrueuse de cette machine. Et la cuve a été mal faite et devra être suivie de près pendant son fonctionnement, ce qui va générer des doses de radiation pour les agents du nucléaire et des frais supplémentaires. Le couvercle de la cuve devra être remplacé après seulement un cycle de fonctionnement, 12 à 18 mois, ce qui va coûter très cher en argent et en dose de rayonnement pour les travailleurs. Ça sera aussi un déchet radioactif supplémentaire à gérer. Mais c'est pas tout. Et merci d'écouter Contre-Histoire. Les fissures apparues sur l'EPR finlandais peuvent apparaître sur l'EPR de Flamanville. Va falloir plus de contrôle et plus d'arrêts, ce qui va encore coûter très cher. Et la corrosion sous contrainte que l'on découvre maintenant, elle est encore mal comprise. En fait, c'est la dégradation des matériaux soumis à des charges importantes ou à des mouvements répétés. C'est-à-dire que pour ne pas s'abîmer, l'EPR ne devrait pas fonctionner. C'est tout simple.
Je sais plus penser, dit l'ouvrier. Tiens, une augmentation, dit le patron.
Les causes profondes restent à identifier. L'apparition de corrosion sous contrainte ne peut pas être écartée sur ce réacteur. Les contrôles vont coûter très cher. L'ASN dit elle-même qu'elle n'a pas assez de moyens financiers et ne peut pas tout contrôler. Elle est obligée de croire EDF sur parole. C'est un gag, ça. L'ASN ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de problème passé inaperçu. EDF et ses fournisseurs ont déjà fraudé sur plusieurs équipements de ce réacteur nucléaire et sur d'autres. On ne peut pas leur faire confiance. Et l'ASN n'a pas assez de moyens pour tout contrôler.
On va tous crever, disait la notice.
L'IRSN le dit dans son rapport de 2022. Les soupapes du pressuriseur vont nécessiter un suivi en service qui va être coûteux en temps, en argent et en dose de rayonnement. Vous voulez parler du mix énergétique français ? Il faut produire de l'électricité autrement que par des réacteurs nucléaires. Il faut de petites installations de renouvelables qui soient locales et plus résilientes. Comme le montrent de nombreux scénarios, y compris le gouvernement, par l'ADEME, les renouvelables peuvent suffire. La mise en service de ce réacteur nucléaire n'est pas nécessaire.
Regarde la jolie queue du poireau vert.
Ça suffit, viens manger ta soupe aux mouettes.
Vous voulez peut-être parler du dossier lui-même. Il est trop volumineux et technique pour qu'on puisse se faire un avis. Si on veut que le public donne son avis sur ce dossier, il faut qu'il puisse comprendre les enjeux du projet. On veut une présentation détaillée, orale et visuelle de chaque pièce. On veut des avis d'experts indépendants, pas uniquement des études faites par EDF. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, il me semble.
Viens caresser les feuilles qui se reposent.
Ne perds pas ton temps, dis la raison.
Même l'ASN trouve le dossier particulièrement complexe et a été obligée de prolonger la durée de son instruction. Le dossier, en plus, est caviardé. Trop d'informations sont masquées. Il est impossible de l'analyser et d'en saisir le contenu. Sachant que la construction des EPR2 est conditionnée à la mise en service de l'EPR1, on ne peut pas avoir confiance dans l'objectivité du dossier d'EDF, même relu par l'ASN. Vous voulez peut-être parler des risques ? La filière nucléaire a perdu en compétences, alors même qu'elle a augmenté la complexité des installations. Pourquoi ? Comment ? La première génération des techniciens compétents, spécialisés et forts de dizaines d'années d'expérience, cette génération a disparu. Retraite, démission ou décès suite aux irradiations. La fameuse maladie des rayons, comme on disait pudiquement. Les remplaçants sont souvent des intérimaires, en particulier pour les tâches d'entretien, qui tournent d'une centrale à l'autre, mal formés, mal protégés, par EDF, qui n'est pas responsable en cas d'accident, d'irradiation ou autre, pour ses sous-traitants qu'elle ne connaît pas. Aussi, le niveau de qualité de la construction et des études préalables est-il insuffisant? Comment faire tourner une machine nucléaire qu'on n'a pas su construire?
Viens faire sauter les digues et te baigner.
Va te laver les mains, dis la propreté.
Il n'y a toujours pas de solution pour les déchets nucléaires. Alors aucun nouveau réacteur ne doit être mis en service. Les enfouir sous le tapis de la terre n'est pas une solution, mais un cache-misère qui mettrait en grand danger les générations futures. Voir pour ça l'accident de 2014 au centre WIP au Nouveau-Mexique. Alors WIP, W-I-2-P, centre WIP au Nouveau-Mexique. N'importe quel moteur de recherche vous donnera cette information, vous allez passer, je dirais pas un bon moment, mais un moment très instructif. Le contrôle des réacteurs nucléaires repose sur les déclarations d'EDF. Eh oui, à chaque problème, c'est EDF qui explique, et elle ne va pas reconnaître ses torts, bien sûr. Qui peut encore faire confiance à EDF et à ses fournisseurs pour tout dire et tout déclarer, après tous les scandales de fraude et de malfaçons qu'il y a eu ces dernières années? Il y a eu beaucoup de fraudes sur des pièces. Qui peut dire que tout a été vérifié et qu'il n'y a pas d'autres défauts non découverts? Les innombrables défauts et fragilités cumulées sur ce réacteur ne devraient-ils pas remettre en question sa mise en service?
J'aime pas les voitures, ça sent mauvais. N'arrête pas le progrès dit la publicité.
Malgré l'engagement d'EDF à l'ouverture du chantier en 2007, le réacteur n'est pas fait pour résister à une chute d'avion en ligne, ni à une attaque armée actuelle. Drones et autres bijoux mortels dernier cri, etc. EDF a tout prévu à Flamanville, sauf les innombrables déboires de ce chantier et des autres PR dans le monde. Comment croire aujourd'hui que cet exploitant est prêt à affronter les problèmes de demain? Les soudures tiendront-elles au vu des nombreux problèmes déjà rencontrés? Certaines soudures ne seront pas accessibles alors qu'elles devront être vérifiées pendant l'exploitation.
Wir werden auf Recken, sagen die Künstler. Aber nein, sagen die Wurst.
Le principe qui considère comme exclu tout risque de rupture des soudures doit être écarté. Et EDF doit apporter toutes les justifications de sûreté qu'il n'a pas voulu réaliser jusque-là. Pas de mise en service sans démonstration de sûreté rigoureuse. Tous les essais d'ensemble n'ont pas encore été tous faits. Ils peuvent entraîner des modifications des équipements, des systèmes et des règles générales de fonctionnement. Leurs résultats doivent être inclus dans le dossier soumis à consultation. La conservation des équipements installés sur l'EPR depuis 2007 pose problème. Plusieurs inspections de l'ASN l'ont montré. Est-ce bien opportun de démarrer une machine dont certaines pièces rouillent depuis 10 ans ou plus? L'ASN dit elle-même, dans son analyse de 2022, qu'il reste un travail important à mener en vue de la mise en service. Le dossier n'est donc pas au point. L'ASN dit aussi dans cette analyse de 2022, le dossier de mise en service est encore en cours d'instruction. Il peut donc encore beaucoup changer. Flamanville, ça reste un synonyme d'irrégularité de conception, de fabrication et autres malfaçons, mise en lumière par plusieurs affaires juridiques. Vous êtes encore là? Quel bonheur sur Canal Sud! Les plus gros soucis de l'EPR, c'est d'abord la cuve. L'un des dossiers les plus emblématiques du volet irrégularité de l'EPR. Par principe, une assurance qualité impose à l'industrie nucléaire que les pièces destinées au réacteur soient strictement conformes à un cahier des charges, depuis leur conception jusqu'à leur fabrication, pour assurer la fiabilité des pièces une fois en service. C'est bien le moins, non? Ainsi, lors de la conception de l'EPR de Flamanville, EDF avait décidé que certains composants, parmi les plus essentiels, seraient concernés par ce qu'on appelle le principe d'exclusion de rupture. Ces équipements étaient supposés présenter une qualité de conception et de fabrication à toute épreuve, tellement que leur rupture était supposée impossible. EDF s'est alors dispensé d'étudier les conséquences et les solutions à prévoir dans de telles situations, économisant ainsi un long travail. La cuve de l'EPR faisait partie de ces composants, dont la rupture était dite impossible. Sa réalisation a été confiée à l'usine Creusot-Forge, connue pour ses fraudes et de nombreux défauts de fabrication. 2005, l'ASN avait alerté le responsable de l'usine, Areva, et EDF aussi, des mauvaises pratiques qui régnaient à l'usine Creusot-Forge. Comme l'atteste la correspondance entre Areva et l'ASN, l'industriel a négligé les alertes de l'ASN à propos des techniques de fabrication de cet équipement. Ce n'est que le 7 avril 2015, une fois la cuve irréversiblement installée dans le réacteur, Areva a averti l'ASN que cette cuve et son couvercle comportaient à plusieurs endroits des défauts, remettant en question leur résistance à la rupture. Matériel fondamental est donc défectueux, faute d'avoir utilisé un alliage de métal approprié pour ce tout nouveau réacteur surpuissant.
J'aimerais tellement connaître des choses vraies. Faut penser à s'amuser, dit la télé.
Malgré les protestations de nombreux citoyens, l'ASN a rendu un avis favorable à l'utilisation de cette cuve. Et le 10 octobre 2018, elle a autorisé son utilisation, sous réserve du changement du couvercle et de mesures de surveillance du fond de la cuve lorsque celle-ci serait en service. Ça va sûrement être très commode. Cette autorisation n'aurait jamais dû être délivrée. Du fait des mauvais procédés de fabrication, cette cuve ne remplit pas les caractéristiques de sûreté initialement exigées. Et le Conseil d'État a rejeté la requête des associations écologistes.
Pourquoi vous acharnez sur ces enfants ?
On fait notre métier, dit le policier.
D'autres équipements et opérations concernées par le principe d'exclusion de rupture ont généré un scandale. C'est le cas des soudures. Lors de la préfabrication des éléments de ces soudures, en 2012 et 2013, EDF n'a pas transmis à Areva, son sous-traitant, les consignes nécessaires pour atteindre le niveau de qualité exigé. Le problème aurait été détecté dès 2015. Mais l'ASN n'a été informée que début 2017. Le pire restait à venir. Le 10 avril 2018, de nouveaux défauts sont détectés par EDF sur d'autres soudures qui avaient pourtant été contrôlées après fabrication et déclarées conformes. Installer et utiliser des équipements sous pression nucléaire qui ne sont pas conformes aux exigences essentielles de sûreté, c'est un délit. Une plainte a donc été déposée auprès du parquet de Paris. Mais c'est pas tout, Canal Sud 92.2, contre-histoire. De nombreux matériels ont été déclarés bons pour le service, sans réserve, selon la formule consacrée. quand ce n'aurait pas dû être le cas. Des pompes sur lesquelles des essais étaient encore à faire. Des pièces de robinet qui n'auraient pas fonctionné dans certaines conditions. Des matériels nécessitant des adaptations pour résister à un séisme. Ces erreurs ont conduit l'ASN à mettre en demeure EDF le 25 février 2019 pour l'obliger à mieux garder les traces des contrôles de l'EPR. Ces problèmes viennent s'ajouter aux nombreux autres défauts déjà identifiés concernant ce réacteur, pourtant présenté comme le plus sûr du monde. Ce phénomène des problèmes non repérés ou minimisés par EDF ou ses sous-traitants, afin de pouvoir déclarer les pièces conformes, ce problème laisse craindre l'existence d'innombrables autres irrégularités existantes sur d'autres équipements. Cette affaire des pièces abusivement déclarées conformes a été jointe à celle concernant les soudures de l'EPR. Elles ont été classées sans suite par le parquet de Paris. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que les infractions visées ne sont pas applicables à l'EPR puisque le réacteur n'est pas encore en service. Jusqu'à présent, tout va bien, ont dû dire les juges qui devraient bien faire une formation en physique nucléaire. Et d'autres défauts qui devraient empêcher d'obtenir les autorisations administratives. Les nombreuses irrégularités sur les pièces de l'EPR induisent des failles de sûreté. Elles auraient dû rendre injustifiables les autorisations administratives délivrées ultérieurement à EDF pour l'avancée des travaux. En effet, lorsque l'EPR a obtenu son autorisation de création en 2007, EDF était loin d'imaginer le calvaire que serait ce chantier et les irrégularités qui allaient toucher les différentes pièces du réacteur. Ça signifie que l'étude d'impact qui a été réalisée à cette époque est devenue obsolète. Une réévaluation de cette dernière aurait dû intervenir au fil des découvertes. Mais ça n'a été le cas qu'en 2021.
Si tu veux pas crever, dis mon copain, viens en communauté, fais-nous plus.
Ainsi, un décret de 2020 a modifié le décret d'autorisation de création initiale de 2007 pour repousser le délai de mise en service de l'EPR de Flamanville en 2024. Ceci sans que l'étude d'impact réalisée en 2006 n'ait été actualisée. Le gouvernement a simplement modifié la date de mise en service. Alors que l'état du réacteur n'a plus grand-chose à voir avec ce que décrit l'autorisation de création initiale de 2007. Ça veut dire qu'en 2007, on a autorisé la création d'une certaine machine et que celle que l'on veut faire démarrer prochainement, elle est complètement différente. Cette autorisation ne devrait donc pas être valable.
L'artiste.
Oh, mais oui, dire les saucisses.
Seulement, c'est parti.
Et voici nos dernières informations. Nous apprenons de sources bien informées que la petite Sophie, qui avait été kidnappée par des individus reconnus comme des Nord-Africains, a été retrouvée au grand soupir de ses parents. La France respire.
Ce décret de 2007 prévoyait notamment que les exigences de conception et de fabrication soient telles que la rupture de composants majeurs comme la cuve ou les tuyauteries soit exclue. Or, les importants défauts qui ont été découverts sur la cuve font que sa rupture n'est plus exclue. Ce risque concerne également 8 soudures du circuit. Le décret initial exigeait également que l'exploitant dispose des capacités techniques et financières pour construire le réacteur et s'assurer des charges futures. ce qui doit être mis en doute. Or, le coût de l'EPR a explosé, passant, selon EDF, de 3,3 à 12,4 milliards d'euros. En 2022, la Cour des comptes a estimé ce montant à un peu plus de 19 milliards. Confronté à une dette de 41 milliards d'euros, EDF s'est lancé dans une course à la rentabilité à court terme et aurait déjà disparu sans le soutien de l'État et l'argent des contribuables. Quant à la perte de compétences d'EDF, le gouvernement lui-même l'a reconnu publiquement. Voir pour ça le rapport Fols sur l'EPR en octobre 2019.
4-2, c'est le score du match à la mi-temps opposant l'équipe de Marseille à l'équipe d'Angoulême. Bravo, l'OM. Une information tout à fait anodine. Quelques Nord-Africains ont été retrouvés sur le caniveau. L'hypothèse d'un suicide n'est pas écartée.
Chronique des petits soucis de l'EPR de Flamanville. Oyez, oyez, bonnes gens, la longue et triste histoire du plus extraordinaire engin producteur d'électricité magique et nucléaire créé par le génie EDF dans notre riante Normandie. Ça commence donc en avril 2007 avec le décret autorisant les travaux du premier EPR. Ça devait être livré, fini, flambant neuf, en 2012 et ne coûter que 3 milliards 300 millions pour assurer notre bonheur électrique éternel ou presque. Un an et demi plus tard, en décembre 2008, l'autorité de sûreté nucléaire doit mettre en demeure EDF d'ajouter les barres d'acier manquantes dans le béton de la chape qui doit supporter la merveille des merveilles EPR. Faut dire qu'EDF est toujours en déficit. Alors ma foi, il n'y a pas de petites économies. Résultat très économique, plus 21% du coût initial ajouté. 2 ans après, on s'aperçoit que le béton, c'est difficile et que cette EPR, le premier de sa génération, doit bien essuyer les plâtres pour ouvrir l'ère lumineuse et surtout radieuse des EPR multiples et miraculeux. Ce qui va prendre du temps, forcément, et risque de nous faire patienter jusqu'en 2014 ou 2015, prévoit-on alors. En augmentant la facture que de 52% au total. Or, en 2011, 2 ouvriers de Bouygues meurent successivement sur le chantier, ces accidents entraînant un nouveau retard de 5 mois. Et à la suite de Fukushima, des tests de résistance sont faits qui repoussent la perspective de démarrage de l'EPR à 2016. Surcoût cumulé de 82% à cette date.
Porte-parole du gouvernement communique. Le SMIG augmenté de 0,0001% à compter du 1er avril 1979.
En décembre 2012, révision et modification du cœur du réacteur. Les rectifications consécutives aux nouvelles normes de sécurité post-Fukushima entraîne des travaux qui repoussent encore le démarrage de l'EPR. Coût total, plus 150% des prévisions initiales. En novembre 2014, le fournisseur Areva ne peut livrer le couvercle ni les équipements de la cuve du réacteur. Retard prévu jusqu'en 2017. Coût total estimé 8,5 milliards d'euros. En avril 2015, l'ASN découvre des anomalies dans la cuve susceptibles d'empêcher la mise en service de l'EPR. Les travaux de réfection portent le surcoût total à 173% des 3,3 milliards prévus et repoussent la fin du chantier du réacteur à 2018.
19, 2, 6, 12. Si vous avez joué ce tiercé dans l'ordre, vous gagnez 16 000 anciens francs et dans le désordre, 4 000 anciens francs.
En juin 2017, l'acier du couvercle apparaît douteux et risquant de ne pas résister plus de 6 ans, ce qui rend la mise en route de l'ensemble impossible en 2018. Le surcoût total grimpe à 218% des prévisions initiales. En octobre 2018, l'ASN découvre des négligences des sous-traitants d'Areva dans la construction de l'EPR, échappant au principe d'excellence du contrat. De plus, 53 soudures de la cuve doivent encore être refaites. La mise en service de l'EPR est repoussée à 2020, son coût total atteignant 233% du budget initial.
Et voici nos toutes dernières informations dans le cadre du développement industriel, humain, technique de la région Alsace-Lorraine, bassin Méditerranée, Sud, Sud-Ouest, Sud-Alpes, Bretagne, Normandie, Flandre. Le porte-parole du gouvernement annonce la construction de prochaines centrales thermonucléaires.
En juin 2019, l'ASN exige la réfection de 8 soudures difficiles d'accès. Chantier alors retardé jusqu'en 2022. Et en janvier 2022, report du chargement de combustible jusqu'au deuxième trimestre 2023. Les travaux sont alors décalés de 6 mois. En décembre 2022, apparaît la nécessité de prolonger les travaux après la reprise des soudures peu accessibles. Coût total estimé par EDF à 12,4 milliards. EDF reporte au premier trimestre 2024 la mise en service de la centrale pour des soudures à reprendre dans des conditions très compliquées. Le coût total estimé à 13,2 milliards depuis le début du chantier par EDF, très loin des calculs de la Cour des comptes qui chiffre le total à 19 milliards 100 millions. Et on a payé tout ça.
On va tous crever, disait l'artiste. Oh, mais non, dire les saucisses.
Voilà, c'était le roman feuilleton de l'EPR de Flamanville. Espérons qu'il s'arrête là, l'EPR, avant d'avoir commencé. Une bonne fois, et qu'on n'entende plus parler de cette monstruosité. Ben oui, on a perdu 19 milliards 100 millions. Mais tant que cette machine est bloquée, on est vivant. Alors ne pleurons pas nos sous. Regrettons seulement que ces milliards ne règlent pas les problèmes des sans-abri, dont Moudinque a fortement rajeuni l'âge moyen. La Dépêche a bien raconté l'histoire des bébés découvrant les joies du camping au pied des tours de HLM toulousain, quand en juillet, en pleine canicule, la mairie de Toulouse a expulsé les familles hébergées dans les hôtels du 115. Contre-histoire, c'est fini pour aujourd'hui, vous en avez de la chance. On fera peut-être plus gai la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et bonne nouvelle, vous allez pouvoir retrouver bientôt les podcasts. Peut-être la semaine prochaine. Merci de votre écoute.
Madame la République, française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous Vous ne pourrez point contrôler l'identité de tout un peuple. Ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié. Les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis